Marie-Jeanne Hurek lit ses deux nouvelles « Seon » et « Casual Friday » tirées du recueil « Foisonnement dans l'air ».
La première nouvelle que je vais lire est tirée du recueil de nouvelles « Foisonnement dans l'air ». Elle s'appelle « Seon ». « Seon », c'est le nom de ma commune d'origine en Argovie, que j'ai découverte il y a quelques années pour la première fois en faisant des recherches généalogiques sur les membres de ma famille. Et quelques personnages que j'ai rencontrés là-bas m'ont inspiré cette nouvelle. Seon, album de famille à feuilleter délicatement. La veille de Noël, un vent épouvantable secoua l'aile nord du château. Les tuiles d'une facture millénaire glissèrent les unes sur les autres et vinrent s'écraser sur les douves bétonnées. La charpente menaça de s'envoler ou de s'effondrer selon l'angle du vent, et les saules pleureurs du parc, toujours entre deux eaux, hésitèrent entre l'abattement total et la cessation des larmes. Un peu partout, des craquements sinistres faisaient écho aux bourrasques, tandis que des volets mal accrochés exprimaient leur mécontentement en tapant contre des murs sourds et aveugles. La situation s'aggrava encore dans la soirée. Une pluie cinglante infiltra la toiture, provoquant une inondation diluvienne dans les chambres d'amis, désertées depuis la mort de Monsieur le Châtelain-père. Les dalles ne résistèrent pas longtemps au déluge et la baignoire de la salle de bain transperça le plancher pour s'échouer au milieu de la cuisine, le ventre tellement ballonné qu'il en perdit les os. Les pieds criblés d'oignons de Madame la Châtelaine-mère furent copieusement arrosés et les bulbes, plutôt accoutumés à la sécheresse crevassée d'une mauvaise hygiène, se mirent à germer, témoignant ainsi de la bonne irrigation et de la vigueur encore présente dans ce corps fatigué. Madame la Châtelaine-mère était une femme minuscule, fille d'un lutin et arrière-petite-fille d'un mangeur de terre, héritière fortuite d'un château qu'elle n'avait jamais visité entièrement, faute d'imagination ou d'intérêt. Un jour de février de l'an souvenir, elle avait franchi les douves gelées du château, était entrée dans l'unique pièce chauffée et n'en était plus ressortie, pas même pour ses commodités. Trônant sur le fourneau de la cuisine comme sur des toilettes, les jambes pendant quelques centimètres au-dessus du sol, elle se réchauffait depuis tant d'années que sa peau, aussi épaisse qu'une couenne de lard, avait pris une jolie teinte rousse qui lui donnait des airs de religieuse enflammée. Pendant qu'elle se laissait griller doucement sur son poêle, Monsieur le Châtelain fils rêvait de réparer cette ruine séculaire, de recouvrer un titre qu'il n'avait jamais possédé, et pourquoi pas de dénicher quelques serres de paille, davantage par souci de décoration que pour assouvir un quelconque complexe d'infériorité hérité de sa mère. Figée sur son banc chauffant, Madame la Châtelaine-mère était chaque jour un peu plus sèche, un peu plus ratatinée, un peu plus effritée, un peu plus poussiéreuse. Une après-midi, la porte bâilla, une rafale humide précéda Monsieur le Châtelain-fils, qui entra avec détermination. « Cette fois, c'est l'aile qui s'est envolée. On ne peut plus continuer comme ça. J'ai téléphoné à Monsieur Frichon. Il est d'accord pour demain. » Une bourrasque identique à la première accompagna sa sortie. La conversation avait été brève, mais claire. Il n'y avait surtout pas lieu d'attendre une réponse. Madame la Châtelaine-mère ne daignait soulever sa poitrine que pour respirer. Le lendemain matin, la tempête avait cédé sous le poids de la neige. Les arbres avaient pris les allures de biscôme, les saules étaient au plus bas de leur forme. Monsieur le Châtelain-fils se frayait un chemin parmi les congères en portant sa mère à bout de bras, tel un trophée. Bientôt, la ferme voisine apparut. Rouge de sueur, il tenta d'expliquer une ultime fois à l'auteur de ses jours les raisons qui le poussaient à l'extraire de son fourneau. « Pense à l'aile, maman, et puis il y aura des poils dans toutes les pièces, y compris dans la salle de bain. Tu pourras enfin quitter ta cuisine ?» Madame la Châtelaine-mère, blottie dans ses bras, presque vivante, toujours un peu morte, ne remua que la tige de ses oignons. « Puis une journée, ce n'est pas long. T'auras à manger. » À ces mots, l'intestin de Madame la Châtelaine-mère se libéra sur la neige encore fraîche. C'était le déménagement d'une semaine qui s'écoulait sur le sol et entre les mains de Monsieur le Châtelain-fils. « C'est bien, maman. J'aime mieux que ce soit fait ici plutôt que chez Monsieur Frichon. » Il avait toujours su trouver les mots qui transforment un petit jour terne et pluvieux en une belle après-midi ensoleillée et prometteuse. La ferme cossue du voisin Frichon était maintenant à quelques mètres. Monsieur le Châtelain-fils déposa sa mère sur le chemin, légèrement en retrait, pour lui faire ses dernières recommandations discrètement. « C'est compris. Et puis tiens-toi droite, maman. Fais un effort. » Il partit en avant, laissant derrière lui une petite forme rabougrie, les jambes bancales et le nez sur le sol. La lourde porte cochère gronda sous le poing de monsieur le châtelain-fils. Un grand gaillard en bottes boueuses vint ouvrir. « Voilà, monsieur Frichon, je vous l'ai amené. Je passerai la reprendre à 6 heures. » L'œil du paysan, dissimulé sous un sourcil obscur, fixa longuement madame la châtelaine-mère, plantée tête baissée au milieu du chemin, puis s'arrêta sur son fils. « Elle est vieille ? Vous ne me l'aviez pas dit ?»« C'est une mère, c'est bien ce que vous vouliez. » « Oui, mais quand même, pour le prix. Plus c'est vieux, plus c'est cher, c'est la loi du commerce. » Monsieur Frichon la jaugea encore une fois, de haut en bas, bien comme il faut, comme il le faisait pour le bétail. « Elle marche au moins ?»« Naturellement, mais elle n'a pas encore mangé. » Monsieur le châtelain-fils revint accompagné de sa génitrice. Comme pour une marionnette, il lui remuait les jambes en rythme, et bien qu'il la portât entièrement, l'illusion qu'elle marchait fut totale. « Il ne faut pas qu'elle ait froid, je la conduis à l'intérieur. » Quand elle passa à la hauteur de M. Frichon, celui-ci la trouva bien fripée pour une mère, même pour une vieille. M. le châtelain-fils revenait déjà tout sourire. « Je l'ai installée près du fourneau, elle aime la chaleur. »« Dites donc, si on lit pas le futur dans ses mains, on lit au moins le passé sur son visage ?» M. le châtelain-fils, lassé de cette situation humiliante au cours de laquelle chaque ride maternelle le vieillissait d'autant, finit par céder. « Bon. » Je vous la laisse à moitié prix. » Et il vit aussitôt l'aile de son château s'envoler. « Joyeux Noël !» Monsieur le châtelain-fils s'en retourna, un peu moins châtelain, un peu plus insignifiant, le cœur beaucoup plus embarrassé qu'à l'aller. Il ne rencontra pas un seul cerf sur le chemin du retour. Il faisait très froid en ce matin de Noël. Monsieur Frichon poussa le battant de la porte cochère et pénétra dans la cuisine en se frottant les mains de la bonne affaire. « Eh bien, maman !» « C'est gentil de me faire une visite, puis le jour de Noël en plus. Quelle surprise !» Madame la châtelaine-mère ronronnait de plaisir à côté du fourneau. Il était beaucoup plus puissant que celui du château, et une odeur de peau rôtie flotta aussitôt. « Qu'est-ce que tu me racontes, depuis le temps qu'on s'est pas vu ?» Monsieur Frichon avait pris sa voix aimable, celle qui lui permettait d'en obtenir autant que par l'argent. Cependant, madame la châtelaine-mère ne desserra pas les dents. Elle était perdue dans les bourrelets de sa mémoire, qui n'avait peut-être été qu'une longue ligne droite. « Un petit chocolat, maman ?» L'œil de la vieille dame se dévoila et la paume de la main s'ouvrit, droite et arrogante. Frichon étira son bras jusqu'au plafond et attrapa 2 boules brunes qui pendaient sur un suspens. Il en avala une et posa l'autre dans la main rigide. La langue veinée de la vieille enroula la truffe, puis la lova dans la cavité buccale. Un mouvement de glotte attesta de sa disparition vers d'autres horizons. 1 minute plus tard, un bruit sec frappa le carrelage de la cuisine. La truffe était intacte, à peine lubrifiée. La journée somnola en silence dans la tiédeur de la cuisine, puis elle s'étira pour gagner en longueur. À Califourchon, M. Frichon nettoyait le repas de Noël qu'il avait préparé et qu'il retrouvait presque intact par terre sous Madame la châtelaine-mère, ses problèmes d'intestin respectant scrupuleusement la parité aspiration-expiration. Les cloches sonnèrent joyeusement. Il n'était que 2 heures de l'après-midi. « Va bientôt falloir que tu repartes, mon. Presque 6 heures. » Les deux étaient immobiles dans la cuisine, l'un l'œil morne sur le coucou, l'autre l'œil mort sur le fourneau. « Rien ne vaut les Noëls en famille. Pour la solitude, je veux dire. Hein, mon. » Madame la châtelaine-mère s'accrocha un peu plus fortement à son fourneau. La chaleur intense qui s'en dégageait avait fait fondre les tiges, ses oignons s'asséchaient à vue de nez. « Puis comme c'est Noël, je t'ai préparé un petit cadeau, maman. » Il retira un paquet d'une boîte de biscuits à l'effigie d'un chien de chasse. Il ne se donna pas la peine de le lui tendre, les doigts de la vieille se seraient effrités en le déballant. C'était un cadre. « Tu pourras y mettre la photo de ton fils, comme ça tu l'oublieras plus. Hein, maman ?» Madame la châtelaine-mère se laissait envahir par la chaleur. Elle sommeillait doucement, comme d'habitude, la tête droite et les yeux grands ouverts. « Fais attention, maman. Tu pourrais bien t'embraser un jour. » Mais madame la châtelaine-mère n'était ni curieuse ni passionnée. Les nouvelles expériences ne l'avaient jamais tentée. Et malgré la touffeur apparente, un grand froid pétrifiait les battements de son cœur. Jamais une journée n'avait été aussi longue. 6 heures sonnaient. Et personne n'avait frappé à la porte cochère. Un léger sentiment d'inquiétude gagna M. Frichon. Madame la châtelaine-mère s'était endormie dans un demi-sourire et le poil crépitait sous son dos. Le petit Jésus, les rois mages et M. le châtelain allaient-ils encore venir ? La nuit était tombée d'épuisement. Enfin, on frappa. « Excusez-moi, Monsieur Frichon, mais le fourneau de maman est tombé en panne. Il fallait absolument le réparer avant son retour. Elle aime tellement la chaleur. »«
Ouais, j'ai cru comprendre. »
Monsieur Frichon était blanc de rage. Il avait de la peine à se contenir. « Ça a été, vous ? Vous avez passé un bon Noël ?» Son sang grimpa aussi vite qu'une araignée au cerveau. Frichon explosa.
« Je veux plus jamais de votre mère dans ma maison. Si elle n'avait pas inondé le carrelage, j'aurais juré qu'elle était morte. Et c'est ça, votre mère ?»«
C'est pas des choses qu'on choisit, Monsieur Frichon. »
« Justement, moi je choisis, et je paye pour ça. J'en veux une qui m'écoute, qui me parle, qui me prenne dans ses bras et qui mette ma photo dans le cadre. »
Il s'effondra contre la porte cochère et le tint bon.
« Je voulais une vraie mère le jour de Noël. C'est si compliqué ?»
De la morve empâtait sa bouche. « Oui, je comprends, monsieur Frichon. Maman est un peu fatiguée pour vous. »«
Fatiguée ? Mais c'est une dépouille qui chie, oui ?»
Deux petites larmes rosées coulaient sur la joue de monsieur le châtelain-fils. « Vous savez, elle a encore des sentiments, je suis sûre qu'elle a eu beaucoup de plaisir avec vous, même si elle n'est pas très démonstrative. » Monsieur Frichon était loin, plongé dans une autre époque, dans un pays appelé nostalgie. « Bien tenez, l'autre moitié de l'argent, ce sera pour la peine. »«
La peine, c'est vous qui me la faites. On est réduit à vendre sa mère pour une ruine. C'est elle que vous devriez retaper. »
Abattu sur les dalles, Monsieur Frichon chassait le vent de sa main.
« Allez-vous-en, vous et votre morceau de pierre !»
Monsieur le châtelain-fils s'approcha de sa maman et arrondit l'échine pour la charger. En voulant la soulever, il sentit une forte résistance. Madame la châtelaine-mère s'agrippait à son fourneau de Noël avec l'élasticité d'une limace et la persévérance des millénaires. Aucun mot ne la persuada de lâcher prise et la masse musculaire de Monsieur Frichon se liquéfia au contact du calorifère.
« Vous voyez, elle tient encore à la vie !»
Monsieur le châtelain-fils s'arc-bouta une dernière fois pour la déraciner.
« Et avec force !»
Monsieur Frichon était muet d'humiliation. Cette vieille peau de 3 pieds et 2 pouces l'avait obligé à la nourrir à la cuillère, à récurer ses excréments, à se comporter en enfant, et voilà que maintenant, elle ne voulait plus quitter sa cuisine. Et pourtant, il était bien décidé à ne plus avoir de mère à la maison. Et ceci, à n'importe quel prix. Il aimait marchander d'habitude, mais ce jour-là, il en fut tout autrement.
Allez, prenez-le, ce fourneau. Au moins, elle sera contente de mon cadeau. Mais pour l'amour de Dieu, fichez-moi le camp et vite. »
Frichon regarda s'éloigner la pyramide humaine. Madame la châtelaine-mère ondulait sur son poil, comme sur un dromadaire, tandis que monsieur le châtelain-fils titubait sous le poids de la charge. Arrivé dans la haute neige, il fut incapable du moindre mouvement. Le fardeau l'écrasait. Il tenta de se défaire du calorifère, mais sa peau y était soudée. Il s'enlisait. La descente fut lente. Madame la châtelaine-mère ne remarqua pas que ses pieds touchaient à présent le sol. C'est ainsi que, par une soirée couverte de neige, monsieur le châtelain-fils s'enfonça vers un nouveau château sans ailes, sans titre et sans serre, mais où les têtes reposent sur des coussins de flocons. Désormais seule parmi les congères, madame la châtelaine-mère trônait sur son fourneau comme une perce-neige au beau milieu de l'hiver. Le voisin Frichon viendrait l'accueillir au printemps. La nouvelle suivante s'appelle Casual Friday. Casual Friday, c'est la tenue décontractée que l'on passe après une journée difficile de travail. Casual Friday, conte à lire en tenue détendue. Ce matin-là, l'air était léger, la pluie assez subtile pour ne pas s'embarrasser d'imperméable, et Madame Alucas, subtile et légère, comme chaque fois qu'elle accompagnait son mari à la porte, elle lui chuchotait à l'oreille en se balançant sur ses orteils. « Ne reviens pas trop tard, mon chéri. Il y aura de la fricassée. » Monsieur Alucas, qui était toujours à regret, le fumait de blanc de poulet qui enrobait sa femme. Mais ce vendredi matin, les regrets furent moins vifs qu'à l'accoutumée. Il lui semblait que le blanc de poulet avait légèrement rosi et exhalait de manière presque imperceptible un arôme d'amourette de porc pour être précis. Et rien ne lui inspirait plus d'horreur que cette odeur. Au risque de se mettre en retard, il revint sur ses pas pour en avoir le cœur net. Le bus collectif attendait déjà de l'autre côté du pont.
« Tu es bien sûr qu'il y aura de la fricassée ce soir ?»«
Naturellement, mon chéri. » Le parfum immaculé de ces quelques mots le rassura immédiatement et il s'engagea d'un pas léger sur le ponceau.
Le conducteur du bus activa le clignotant. Les portes trépignaient d'impatience. Monsieur Alucas pressa l'allure, mais la structure vacillante de la passerelle empêchait de grandes foulées. L'explosion du moteur l'atteignit comme une claque sur la figure. Les portes s'étaient refermées bruyamment. Le bus avait disparu. Encore chancelant, Monsieur Alucas fixait l'horizon avec effroi. C'était un homme d'habitude. Il suivit longtemps les trois canals dont le caractère hasardeux et la couleur brillante lui avaient donné le nom de veine d'oreille. D'innombrables canalicules venaient s'y jeter par désespoir ou par attirance, selon l'humeur de leur méandre. Toutes ces eaux venaient ensuite alimenter la grande artère, le canal principal, qui coupait la ville en deux parties rigoureusement symétriques. La cité de Sakula était parcourue par un réseau hydraulique complexe, au cœur duquel s'étirait à perte de vue la grande artère. Quelques passerelles l'enjambaient, çà et là, afin d'assurer une communication minimum entre les deux parties de la ville. À vrai dire, rares étaient ceux qui avaient eu l'occasion de s'aventurer de l'autre côté, car la position aléatoire des passerelles les rendait introuvables. Seul, le hasard pouvait y conduire. À Sakula, tout ce qui pouvait déranger le cours d'une vie était vu avec épouvante. À mesure que M. Alucas s'approchait de la grande artère, une brume cotonneuse enveloppait le chemin. Aucun son, aucune odeur, aucune sensation n'était perceptible dans cette atmosphère feutrée. M. Alucas se mouvait dans le vide, les bras en pendule pour ne pas perdre l'équilibre. Le bourdonnement régulier de son tympan lui donna la nausée. La bile chaude et visqueuse lui coula le long du menton, puis fila goutte à goutte sur ses chaussures en daim. Malgré une forte puanteur, il se sentit tout de suite mieux. Puis quelque chose de phosphorescent perça le brouillard et s'approcha. Des petites lettres lumineuses prenaient forme. On y lisait « Distributeur éclairé ». M. Alucas glissa une pièce dans la fente, le ventre stimulé de la machine cracha une bougie enflammée. Il s'y cramponna comme s'il s'agissait de la Providence. La lueur, tout juste suffisante pour ne pas la perdre des yeux, n'éclairait que très faiblement le chemin. Quelques minutes plus tard, une bruine insidieuse acheva de transpercer ses vêtements trop fins. Il en conclut qu'il débouchait sur la grande artère. Il savait parfaitement qu'il fallait ensuite la longer sur une centaine de mètres, puis prendre à droite pour gagner la régie. Il hâta le pas, plus tout à fait sûr d'être en avance. Mais une voix aigrelette l'interpella.
« Jeune homme, je n'ai pas mes lunettes. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me conduire ?»
M. Alucas ne parvenait pas à localiser la voix qui semblait se déplacer constamment.
« Par ici, jeune homme. »
Avant qu'il n'ait eu le temps de dire qu'il n'aimait pas être dérangé, une main féroce saisit son bras.
« Avec ce brouillard, on a besoin de la vue d'un jeune homme, pas vrai ?»
M. Alucas fut surpris de la force avec laquelle on l'agrippa. À la hauteur de sa taille, la bouche édentée d'une petite vieille lui souriait. Il ne distingua rien de plus, la bougie était morte.
Il n'y avait pas meilleur que moi pour percer cette purée de pois à l'époque. Mais maintenant, c'est autre chose. »
Tout en se racontant, elle tirait imperceptiblement sur le bras de M. Alucas pour l'entraîner dans une direction à laquelle il ne prêta aucune attention.
« Voilà, c'est ici que je m'arrête. Merci, jeune homme. »
Elle desserra l'étreinte. Il sentit une colonne de fourmis escalader sa nuque à toute vitesse pour l'avertir qu'il serait en retard au travail. Le brouillard était tenace, les canaux multiples, le lieu inconnu. Il commença à s'affoler.
« Madame, madame, attendez! C'est par où? C'est par où ?»
La vieille dame avait naturellement disparu. Déboussolé, il se mit à courir vers la première lueur qu'il aperçut. C'était un distributeur de bougies. Il secoua la poche de son pantalon, quelques piécettes s'éveillèrent, mais aucune n'entra dans l'interstice de la machine. Agacé par cette suite de contretemps, il asséna un coup de poing dans le ventre de l'appareil. Une cire parfumée lui colla sur le bras. Monsieur Alucas n'avait jamais connu de douleur aussi terrible. Son cri coïncida avec l'arrivée subite d'une nouvelle averse. Il s'étonna de ne pas avoir pris son imperméable. D'habitude, il ne se trompait jamais dans ses prévisions météorologiques. Le froid le poussa à marcher et il suivit les méandres d'un canal. Une bruine bien connue le glaça jusqu'aux os.
« La grande artère, enfin !»
Il courut le long du canal, espérant arriver encore à l'heure au travail. La sueur lui brûlait les yeux. Ses pulsations cardiaques prirent le rythme saccadé de la grande artère. À la hauteur du premier candélabre vert, il obliqua à droite pour accéder à la régie. D'un seul coup, il se sentit soulevé dans les airs, une voix forte l'obligea à regarder par terre. Faut faire attention où vous mettez les pieds, mon petit bonhomme. Elle va pas vous faire de cadeau, la grande artère. »
Monsieur Alucas était suspendu dans le vide. Son chapeau en feutrine était déjà loin, emporté vers les rapides.
« Merci, monsieur. Je suis un peu désorienté dans ce brouillard. Je n'ai pas l'habitude. Excusez-moi. »
« Vous vous y ferez, ce n'est qu'une question de latéralisation. »
Monsieur Alucas ne distinguait pas très clairement l'homme, mais la marque de cire sous son bras ne lui échappa pas.
« Vous aussi, vous vous êtes fait avoir ?
Il pourrait quand même prévenir quand il change ses distributeurs. »
L'homme le déposa à terre.
« On n'est jamais prévenu, c'est à vous de vous adapter. Allez, continuez par ici, sur votre gauche. Et bonne chance. »
Monsieur Alucas continua seul, transi, mais près d'un canal qui lui était familier. Au bout d'un certain temps, une tour d'une stature imposante se dessina à travers les brumes, la régie. Il prit place dans la colonne humaine d'employés cravatés et corsetés, attendant leur tour pour passer le tourniquet qui les introduirait à l'intérieur. Il chercha d'un œil anxieux l'horloge. Au dernier quart, le gong sonna. Il franchit le seuil de la régie alors que le 9e coup résonnait encore dans le colossal hall en cuivre. Lorsqu'il pénétra dans son bureau, un homme était assis à sa table en train de rédiger une lettre. Son intestin se noua, ses tempes bourdonnèrent.
« Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ?»
L'homme tressaillit et son siège rota.
« Ah, c'est vous, monsieur Butler. Dites donc, ce n'est pas dans vos habitudes de plaisanter. »
Monsieur Alucas reconnut immédiatement le statisticien du service de pilotage automatique. Il le croisait souvent sur l'étage, mais leur bureau était aussi opposé que leur sens de l'humour.
« Pourquoi m'appelez-vous Butler ?»«
Comment voulez-vous que je vous appelle? C'est bien votre nom ?»«
Mon nom ?»«
Salut Butler! Presque en retard aujourd'hui! Une urgence à la maison ?»
Le collègue lui décocha un clin d'œil amusé.
« Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Vous allez me répondre? Que faites-vous dans mon bureau ?»
Le statisticien se mit en colère.
« Votre bureau?
C'est mon bureau ici, ça a toujours été mon bureau, regardez !»
Et il arracha du mur la photo d'une femme blonde, entourée de deux enveloppes blondes et bouclées. Lui-même était blond et bouclé.
« Hein? C'est qui ça? C'est peut-être votre femme aussi !»
Monsieur Alucas recula d'un pas. Cette dame souriante ne ressemblait pas du tout à Madame Alucas. Elle avait beaucoup trop d'enfants. Il se sentit affreusement gêné et très en colère contre lui-même.
« Non, vous avez raison. Excusez-moi, j'ai dû me tromper. »
Il se précipita dans le couloir. À travers les portes entr'ouvertes, il devina les têtes concentrées des gratte-bouliers penchées sur leur jeu de billes, des collègues du service. Si l'une d'elles se relevait, elle le saluait gentiment.
« Salut Butler !»«
Bonjour Monsieur Butler !»
Plus il s'enfonçait dans le couloir, plus les têtes, jusque-là familières, lui devenaient amies. Soudain, il reçut une petite tape sur l'épaule.
« Alors, Monsieur Butler, vous avez eu le temps de lire le papier que j'ai déposé sur votre bureau ?»
La face lumineuse de la chef du service, point de vue, point de mire, l'éblouit.
« Ah, vous tombez bien. Figurez-vous que je ne l'ai pas trouvé. »
« Si, sur votre bureau ce matin, à côté de la photo de madame. »
Monsieur Alucas pensa qu'il fallait mieux articuler pour se faire comprendre. « Je n'ai pas trouvé mon bureau ce matin. Où est-il ? » ?»«
Comment où est-il ? Là où il a toujours été. Il n'a pas bougé. »
Devenu sourd à certaines réponses, il haussa le ton.
« Où est mon bureau ?»
Plus effrayée par le fait que c'était Monsieur Butler qui criait que par son cri, elle recula d'un pas.
« Calmez-vous, Monsieur Butler, on va le retrouver. »
« Je ne m'appelle pas Butler, mon nom est Alucas, Alucas. »
Il se mit à courir dans le couloir en se heurtant au mur et en poussant des vociférations animales. La vue d'une affiche l'arrêta net. Un homme serrait la main d'une femme et le slogan disait « Une même voix pour le futur ». Il se reconnut en compagnie de la chef lors du 3e congrès du Pithiviers. Il posa le doigt sur la photo, une porte s'ouvrit, laissant apparaître un bureau de taille moyenne. Tout était comme il l'avait laissé le soir d'avant. Son fauteuil froid lui hérissa les poils de contentement, il mit en branle son jeu de boules métalliques au mouvement infini. Un léger grattement vint troubler le silence. La chef était là, appuyée contre la porte, un air rassurant dans les yeux.
« Vous voyez, tout est là, à sa place, comme d'habitude.
Oui, c'est parfait, merci. »
Mais vous auriez quand même pu me prévenir que l'on déménageait. Je me sens ridicule maintenant.
Monsieur Butler, êtes-vous sûr que ça va ?
Il devint blond de rage, la fureur lui redonna quelques couleurs.
Est-ce que quelqu'un va enfin m'expliquer ce qui se complote ici ?
Une douleur aigüe lui vrilla alors l'oreille. Ses aigreurs d'estomac reprirent. Sans réfléchir, il s'élança vers la baie vitrée. Son crâne buta violemment contre une vitrine peuplée d'oiseaux rares. Sous le choc, il embrassa un des volatiles.
« Mais qu'est-ce qui vous prend? La fenêtre est de l'autre côté. Vous vous êtes fait mal ?»
La fenêtre n'avait jamais été de l'autre côté. Monsieur Alucas s'en souvenait parfaitement, puisque son statut de gaucher lui avait donné droit à un bureau ouvert à l'ouest pour que sa main ne lui fasse pas d'ombre quand il écrivait. Malgré tout ce que cette découverte impliquait, il se sentit réconforté par la certitude que ce n'était pas lui qui avait changé, mais son environnement. Porté par une confiance toute neuve, il darda sur la chef un regard aiguisé jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux. À cet instant seulement, il abdiqua. « Je crois que j'ai un problème de latéralisation. » Derrière ses paupières closes, la chef sourit.
« Dans ce cas, je vais appeler une voiture pour vous ramener chez vous et vous prendrez la semaine de repos. »
Abattu, M. Alucas se laissa pendre à son fauteuil, l'œil rivé au jeu de boules. Le balancement régulier l'avait déjà plongé dans un état léthargique lorsque la chef s'approcha, entourée de deux fortes carrures. Elle lui chuchota à l'oreille.
« J'ai prévenu votre femme. Elle vous a préparé un bon petit plat. »
Les deux gars soutenaient M. Alucas qui s'était définitivement relâché. Ses pieds avaient du mal à se synchroniser, sa nuque ne supportait plus sa tête lourde et apathique. Une haie de murmures l'accompagna tout au long du trajet. Madame la chef repoussait fermement les curieux. La voiture surgit du brouillard, une pluie de rue obligeait les essuie-glaces à se courir après. Le chauffage était malade. M. Alucas regardait tristement par la fenêtre embuée. De temps en temps, il essuyait la vitre d'un geste circulaire. C'était toujours pour s'apercevoir que la buée provenait de ses yeux. Il laissa dégouliner ses larmes les unes après les autres sur son bras blessé. Il baissa la vitre de quelques centimètres, la bruine lui excita le nez. La route longeant la grande artère était déserte. Entre deux échappées dans la brume, il reconnaissait un bâtiment. Tout était identique, mais tellement différent.
Il est triste ce côté.
C'est le brouillard qui vous donne cette impression.
Et le chauffeur piqua à droite. Le canal diffusait une lumière chaude et un parfum d'amourette infiltra progressivement la voiture. La maison n'était plus loin.
« Voilà, Madame Butler, je vous le ramène !»
Monsieur Alucas traversa le ponton au bras de sa femme. Elle le soutenait légèrement.
« J'ai une journée difficile. Viens vite au chaud. Tu sens ton plat préféré ?»
Il huma l'air sans surprise, puis d'une voix blanche mais douce, il lui souffla à l'oreille.
« Tu sais, ce matin, je savais. »
« Ne parle pas, ne te fatigue pas, mon chéri. » Monsieur Alucas lui sourit, il reçut en échange un gros bec mouillé. La brume qui commençait à se disperser laissait filtrer une lumière blafarde. Le soleil n'était plus loin. Il s'arrêta pour profiter de l'éclaircie, mais sa femme plissa les paupières.
« Viens, cette lumière est aveuglante. »
Elle le poussa gentiment au salon. « Déshabille-toi, je vais t'aider à enfiler ton casual Friday. » Une chaleur agréable régnait dans le salon. Il se laissa faire comme un enfant. Les manches étaient un peu difficiles à passer, mais en tirant bien, on y arrivait toujours. « Voilà, tu peux te reposer maintenant. » Monsieur Alucas tomba dans le rocking chair. Tout en se balançant, il regardait par la fenêtre le ciel se dévoiler. La cheminée électrique baignait sa figure d'une lueur rougeoyante. Il avait revêtu sa tenue de détente, un pantalon de flanelle grise et une camisole rêche attachée dans le dos pour lui immobiliser les bras contre les omoplates. Sa femme, assise sur ses genoux, lui donnait à goûter ses amourettes. Entre deux bouchées, M. Alucas lui murmura.
« Tu sais, quand je t'ai quitté ce matin, je savais que tu ferais des amourettes. »
Marie-Jeanne Hurek a lu ses deux nouvelles « Séon » et « Casual Friday » tirées du recueil « Foisonnement dans l'air ».